Bonjour, ici Sébastien Girard. Mardi 23 novembre 2010, je me suis rendu chez François Descraques pour l'interviewer à propos du Visiteur du Futur. Mon but initial était de réaliser un montage vidéo d'une vingtaine de minutes. Cependant, en visionnant les rushs, il m'est apparu qu'il serait plus intéressant de présenter l'interview dans son intégralité plutôt qu'à travers un montage. Et pour cela, un podcast me semblait beaucoup plus approprié qu'une vidéo. C'est donc l'intégralité de l'interview que vous vous apprêtez à écouter. Bonne écoute, dans 3, 2, 1... Donc le but, c'est vraiment de parler de l'écriture des trois premiers épisodes de la saison 2, pas autre chose.
D'accord.
Je m'étais dit, on va peut-être envisager de parler des épisodes qui viennent, mais là, on risque de faire des spoils, donc je me dis, on se concentre sur les trois premiers épisodes. Donc j'aimerais bien que tu me parles de toutes les réflexions pré-écriture que tu as eues après la saison 1. C'est-à-dire que j'imagine que tu as pensé dans un temps faire des sketchs courts, peut-être,
C'est même ce que j'avais dit à la séance Dailymotion où c'était à la fin de la saison 1, on m'a dit est-ce qu'il y aura une deuxième saison et j'ai dit non, il n'y aura pas forcément, ça me semble trop compliqué. À la limite, pourquoi pas des sketchs indépendants, tu vois. Donc, c'était le premier truc que j'avais dit, parce que ça me semblait le plus facile. Et en fait, c'est pas tout ce que j'ai fait, quoi.
Et pourquoi est-ce que c'est pas ce que tu as fait?
En fait, c'est que le concept avait évolué, plus ou moins malgré moi. Et donc, je me voyais mal en train de... Je me voyais mal revenir en arrière, parce que dans l'évolution de la série, on avait vu... Au début, ça commençait par des sketchs complètement débiles sur un mec qui vient du futur faire chier un mec du présent. Et au fur et à mesure, on explique pourquoi il le fait chier et pourquoi il fait chier que lui, et quelles sont les répercussions, quels sont les enjeux. Et donc, on montre que le truc qui paraît débile au début est en fait pas si débile que ça. Donc, de revenir à un truc débile et sans conséquence, c'était impossible pour moi. Le personnage, il avait trop évolué, on avait trop appris sur lui et sur ce qu'il faisait. Donc c'était pas possible. Et donc j'avais besoin d'aller dans une autre direction et dans la continuité. Et surtout la fin de la saison 1, je m'étais quand même laissé une porte ouverte qu'on voit à la fin de la saison 1 avec le dialogue entre le visiteur et Raph. Et qui me paraissait évident, c'était maintenant qu'ils ont empêché donc, la création de la brigade temporelle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je me suis dit, mais en fait, à la base, le visiteur il est censé sauver le monde, c'est pour ça que la brigade temporelle l'empêche de sauver le monde. Maintenant qu'il n'y a plus la brigade temporelle, il doit sauver le monde. Et je me suis dit, en fait ça fait que commencer. Donc ça qui était plaisant, c'était de me dire que ça m'offrait encore plus de possibilités qu'avant en fait. Donc ça m'a beaucoup inspiré à aller dans cette direction là, et surtout que j'avais besoin aussi de faire, d'élargir l'univers du visiteur et d'élargir, alors c'est un peu con, mais d'élargir le public. Essayer de montrer que le visiteur du futur, c'est pas seulement une expérimentation web faite par des potes au bois de Vincennes, tu vois. Ça peut être quelque chose de vraiment, qui a de la valeur en tant que série française. Et pour ça, j'avais besoin que la saison 2 soit à la fois la suite de la saison 1, pour pas non plus perdre tout ce qu'on avait fait, mais que ce soit aussi un renouveau. Et donc le fait qu'il commence réellement à sauver le monde à ce moment-là, permettait de reposer de nouvelles bases tout en étant la suite de la saison 1. Donc voilà quelles ont été, on va dire, mes principales réflexions de base, on va dire, avant de me mettre là-dedans. Quoi.
Est-ce que tu as été influencé par des personnes proches ou par des fans, je sais pas, des membres de ton équipe, Sim, dans tes réflexions, ou est-ce que c'est une réflexion que tu as eue seule?
Alors j'étais inspiré, à mon avis, par plein de choses et...
Comme toujours.
Et je m'en rends pas compte des fois, c'est vraiment inconscient. C'est moi qui écris vraiment seul, et c'est moi qui écris les trois épisodes seul, mais je le fais en parlant avec mon entourage et en voyant leurs réactions et en voyant si ça les intéresse vraiment ou pas. Donc finalement, ils m'influencent beaucoup. Je sais pas si j'étais. Disons que. Ce qui m'a influencé, c'est entre guillemets, le succès de la série. C'est le fait que on nous considère... Enfin, en fait, c'est le fait que beaucoup de fans aient considéré la série comme étant une véritable série de science-fiction, et pas juste un délire. Et même des fois, ces fans le prennent trop au sérieux. Mais ça m'a quand même influencé. Je me suis dit, ok, donc à leurs yeux, ça a autant de valeur que un Lost ou un Doctor Who, tu vois, alors que c'est fait avec trois fois rien. Mais ce qui m'a le plus influencé, c'est mon envie principale. C'est-à-dire que de faire une vraie série de science-fiction, un truc que, enfin, ça fait des années que je rêvais de faire ça et que je me suis dit, je me disais toujours, je ferai ça quand j'aurai 40 ans, tu vois. Et là, je me suis dit, pourquoi pas le faire maintenant? Je veux dire, il faut juste travailler plus, être plus concentré, être plus rigoureux, mais c'est pas impossible, tu vois. Donc c'est ça qui m'a influencé le plus, c'est mon envie de faire une véritable série de science-fiction et d'humour, et qui fonctionne sur les deux niveaux. La première saison, on l'a faite un peu au fur et à mesure, et donc la mythologie c'est un peu créé au fur et à mesure. Là, j'avais possibilité de créer un univers à partir de la première saison, mais de créer un nouvel univers, on va dire.
D'accord. Donc il y a vraiment le désir de créer une œuvre artistique de qualité. Et à quel point est-ce que les désirs de faire carrière, de gagner de l'argent, d'être vendu, peuvent intervenir dans les choix que tu fais?
Bah, ça a été assez... ça a toujours été une problématique, mais j'essaie de ne pas prendre trop... que ce soit pas une pression. C'est-à-dire que quand on a commencé l'histoire du futur, on voulait pas le monétiser. Quand on a fait la saison 1, jusqu'à la fin, on n'a pas voulu le monétiser forcément. Même si là, on a des possibilités de rembourser les frais, mais pas forcément de vivre de ça. Pour la saison 2, ce que j'ai fait... En fait, je me suis dit, à ce moment-là, il y avait quelques contacts qui...
En l'occurrence, excuse-moi de te couper, rembourser les frais, c'est sur les produits dérivés.
Ouais, les produits dérivés sur les DVD si on en fait.
D'accord, c'est les deux sources de revenus bon, en ce qui concerne la saison 1 pour l'instant.
Pour l'instant, ouais. Et donc, au moment de faire la saison 2, enfin de décrire, j'avais cette possibilité. Enfin, j'avais des contacts de télé qui me disaient: ah, mais je suis sûr que ça ferait un beau 26 minutes. Enfin, 26 minutes, c'est un format télé. En fait, ce qui a fait que la saison 1, on n'a pas pu vraiment le vendre à la télé. C'était entre guillemets un format un peu bâtard, qui était assimilé à un format court, à savoir le format de 3 à 5 minutes. Et le format court à la télé, c'est pas censé être des histoires de science-fiction, c'est pas censé être des histoires qui suivent, c'est censé être des sketchs qui ont pas de lien entre eux.
Oui, et puis c'est un format multiple, on pourrait dire, parce que des fois ça fait 2 minutes, des fois ça fait 10 minutes.
Oui, voilà, mais nous on était quand même assimilé au format court.
D'accord.
Et donc moi ça m'énervait parce que je me dis, non mais nous on fait pas vraiment un format court. Il est court parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus, mais on le traite comme un 26 minutes. C'est-à-dire qu'un format 26 minutes, c'est un format où il y a plus de narration. Et il y a plus d'histoires, des cliffhangers, etc. Même, je dirais que moi, je le traite même pas comme un 26 minutes, je le traite comme un 52 minutes. C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte qu'il y ait vraiment autant de révélations, d'informations que dans un 52 minutes, mais en moins de temps. Et donc, il y avait ce paradoxe-là, des formats télé qui sont très très codifiés, enfin très formatés, forcément. Et donc, et je me suis dit, bon, j'ai envie de montrer que je sais raconter une histoire sur le long terme, tout en gardant ce format internet un peu bâtard qui me convenait, à savoir un format vers les 8 minutes. Et donc, je me suis dit, l'idéal, c'est de faire 3 épisodes qui soient en fait un gros épisode de 25 minutes qui me permettent de montrer, et là c'était plus, c'est pas tant par rapport aux fans et tout, c'est plus par rapport à mes contacts professionnels, dire voilà, je sais faire une histoire qui dure plus que 2 minutes, qui soit pas juste un sketch, comme un gros court métrage aussi, tu vois. Et c'est un truc que j'avais pas fait depuis des années, c'est à dire que la dernière fois que j'ai fait un court métrage de plus de 2 minutes, c'était j'étais au lycée, quoi, et c'était pas bien, enfin c'était pas assez pro, quoi. Donc là, j'avais cette possibilité-là, tout en gardant ce côté web-série qui permet de diffuser sur plusieurs dates, etc. Donc c'est ça qui m'a motivé, c'est-à-dire que je suis parti de ce format-là, de me dire, ok, je vais faire 3 fois 8 minutes, ce qui fera 25 minutes. Au final, le montage 25 minutes que j'ai fait ne m'a pas aidé plus que ça. Bizarrement, c'est plus les internet comme d'hab. Hein,
tu l'as présenté quand même à quelques producteurs sur 25-26 minutes. Et quelles ont été leurs réactions?
C'est trop geek.
C'est trop geek.
Ouais, en fait, c'est que pour eux, ils voient pas comment le vendre. C'est tout. Enfin, c'est aussi simple que ça. C'est qu'ils savent pas à qui ils peuvent le montrer. Et ça a confirmé que le visiteur du futur, c'est pas fait pour être à la télé.
D'accord.
Donc, mais je voulais pas. C'est pour ça que, à la base, on aurait dû faire juste un 25 minutes. C'est-à-dire que j'étais en contact avec un producteur et le but c'était juste faire un 25 minutes. Enfin, 26 minutes. Et j'ai senti que c'était un piège parce que faire un 26 minutes produit, ça implique que, en plus, tu cèdes les droits de tes épisodes.
T'aurais pas pu continuer derrière, en
Non.
fait.
Pas, enfin, j'aurais pu continuer, mais au bout d'un an. Et j'aurais pas pu les diffuser tout de suite. Enfin, bref, ça aurait été une galère. Et en plus, l'argent que le prod me proposait, c'était rien, quoi. C'est-à-dire que, en gros, il nous disait, de toute façon, si tu es tout seul, tu pourras pas le faire. Ça sera pas pro, ça sera pas bien, ça sera pas propre. Et ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que pour la saison 1, on n'était pas à fond. Techniquement, on n'était pas à fond. Je faisais exprès de me restreindre techniquement pour avoir le plus de flexibilité, mais on n'était pas à
Tu
100%
sais,
de capacité.
disons que tu faisais en sorte que les tournages soient cool. T'as pas
Voilà.
fait exprès de
Non.
faire des trucs de mauvaise
Non,
qualité,
non,
entre
non.
guillemets.
Non, j'ai limité la technique, c'est pour ça que j'ai mis du temps à accepter d'avoir de la lumière. Alors que pendant des années, j'ai fait des courts-métrages où je louais 2000 euros de lumière, etc. Enfin, donc, pour moi, je savais faire ça. C'est juste que je voulais pas le faire pour le Visiteur du Futur parce que je considérais à l'époque que c'était pour l'instant qu'une expérimentation internet et qu'il fallait que je le fasse sur le long terme et pas juste un super bel épisode. Là, en plus, on arrivait au moment où le 5D est apparu. Qui permet d'avoir une image vraiment de qualité entre guillemets cinéma, et c'est léger, et c'est pas cher, etc. Donc, ce qui fait que je pouvais montrer ce que je pouvais faire à 100% de mes capacités, mais toujours sans budget. C'est-à-dire que toujours avec l'argent, enfin, sans budget, avec le budget de ma poche et avec les gens qui donnent de leur temps. On a quand même loué du matériel, mais finalement, ça c'est pas revenu très très cher.
Est-ce que si tu avais décidé de faire un 26 minutes en passant par un producteur, ça aurait modifié le produit fini? C'est-à-dire qu'étant donné que tu étais seul,
Bah,
peut-être tu te laissais plus d'ouverture sur la fin de ce
oui, déjà,
26 minutes,
déjà.
entre guillemets. Donc est-ce que tu aurais plus fait une histoire plus bouclée
Non, non,
que...
parce qu'il faut qu'un 26 minutes, quoi qu'il arrive, pour un pilote, ça aurait été un pilote de série, il aurait fallu que c'est une ouverture. Bon, ça aurait pas changé grand-chose. Ce qui aurait changé, c'est que le producteur aurait pu me dire, si on veut aller voir cette chaîne-là, il faut pas que tu mettes cet élément-là parce qu'ils vont pas aimer. Et c'est là où j'aurais dû, on va dire, peut-être enlever des trucs. Mais franchement, c'était pas tant ça qui me gênait, parce que moi je suis complètement ouvert à cette discussion-là, tu vois. Je suis pas fermé par rapport au Visiteur Futur, au concept. J'estime que c'est un univers qui se crée au fur et à mesure et que les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Et s'il y a moyen de monétiser la série avec quelques concessions, pourquoi pas, tu vois. Mais c'était pas ça qui m'avait dérangé. C'était le fait que. Enfin, l'argent qu'il nous proposait était rien, et qu'il n'ait pas confiance en nous, qu'il soit basé sur le fait que sans nous tu peux rien faire. Et en plus, le fait que je pouvais rien faire avec si je voulais le mettre sur internet et continuer quand même. Enfin, j'aurais pu récupérer le truc, mais ça aurait été très long.
Tu perdais ton bébé, quoi.
Bah, c'est pas que je perdais mon bébé, parce que
Pour un an.
j'avais réussi à négocier pour le récupérer beaucoup plus tôt, tu vois, mais. C'est au moment où je me suis rendu compte, mais en fait, ça ferait plus de gens sur le tournage, qui me disent plus de trucs à faire, et techniquement, j'aurais rien à gagner. C'est-à-dire que c'est, enfin, ça pas, il n'y aurait pas de plus-value, tu vois? Et ça, c'est un truc qu'il y a eu un clash à ce niveau-là, parce qu'ils m'ont dit, non, non, mais sans nous, ça sera pas bien. Et j'ai fait, ah, je pense pas. Et le résultat montre que non, c'est quand même bien, quoi. Ils me disaient, mais il te faut un vrai chef-op, il te faut un vrai cadreur, tu veux pas cadrer toi-même, tous les trucs que j'ai l'habitude d'entendre, tu vois? Donc c'est ce discours-là qui m'a surtout bloqué en fait. C'est le côté, t'as besoin de nous, et moi je suis d'accord, ok, qu'est-ce que vous me proposez? Bah, la même chose que tu as en fait. Ah, bah, je suis ben non, dans ce cas-là, ça m'intéresse
Ouais.
pas, quoi. Et c'est très mal vu dans le milieu. Un réalisateur n'est pas censé être son propre producteur. Et donc dans le milieu de la télé, si tu dis, mais j'ai pas besoin de vous, mais tu insultes les gens, tu vois. Donc c'est très mal vu, tu vois. Mais j'ai pris le risque parce que j'estimais que le Visiteur du Futur, c'est un truc qui s'est pas fait pour juste faire un pilote et ça s'est fait pour être pour durer sur le long terme. Et il faut que j'ai les clés du concept à 100% pour savoir ce que je vais en faire au fur et à mesure. Et donc, pour répondre à ta question, donc la question c'était le fait de monétiser la série, c'est une envie, mais c'est pas la priorité. Et tant que c'est pas la priorité, tout se passe bien. Parce que si ça devient la priorité, et ça viendra pas forcément de moi, hein, c'est peut-être l'équipe qui dira, écoute, ouais, j'ai plus le temps, etc. Là, ça deviendra un problème, et là, ce sera beaucoup plus difficile de faire la série, quoi. Après, je suis pas inconscient je sais qu'on peut pas faire ça indéfiniment, quoi. Mais au début de l'année, on s'est dit, ok, on s'engage.
On aura tous des enfants, ça sera plus dur.
Déjà, oui. Mais on s'est engagé sur une saison. Tu vois. On n'a pas dit, ok, pendant 7 ans, ça va être comme ça. On s'est dit, non, allez, on s'engage pour une saison, quoi. Et encore, même pas, puisque quand on a fait les 3 premiers, j'avais dit qu'il n'y aura pas forcément de suite. C'est qu'on fait les 3 premiers, je fais mes démarches, j'essaie de voir si on peut trouver de l'argent, et à la fin, si vous êtes d'accord, on reprend quand même comme avant.
D'accord. Parce que moi, je me rappelle que sur le tournage des 3 premiers, a priori, on était censé faire que ça. C'est que bien après, enfin, c'était peut-être beaucoup plus clair dans ta tête. Mais
bah, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai dit, on verra après, on verra. Je voulais pas que les gens se disent... je voulais pas qu'ils se sentent piégés, tu vois. Qu'ils se disent, ah putain, si on accepte dès maintenant, ça veut dire pendant un an, ça va être comme ça. Mais bizarrement, tout le monde m'a dit, enfin, les acteurs principaux m'ont dit, ah non, mais si t'as besoin de... Mais, ils étaient tous partants, quoi qu'il arrive. Quoi. Donc c'est ça qui m'a plus motivé. C'était le fait que... même si j'arrivais pas à trouver de l'argent, eux, ils étaient motivés pour continuer l'aventure en se débrouillant, tu vois.
Est-ce qu'il y a eu un laps de temps entre la fin du tournage des 3 épisodes et ta prise de décision ? Bon, on continue, on fait la suite.
Bah, il y a eu la post-prod, il y a eu les premiers envois de DVD à différents producteurs, il y a eu la projection, donc il y a eu quelques mois, ouais. Mais au final, le problème, en fait, c'est que au Japan Expo, donc en juillet, quand j'ai montré le teaser, j'ai dit ouais, ce sera diffusé. Parce qu'en fait, je comptais les diffuser quoi qu'il arrive, tu vois, mais puis bon, j'ai dit octobre. Et donc dès le 1er octobre, les gens m'ont dit alors c'est quand ? Donc je me suis dit putain, en fait, il y a vraiment une attente et ce serait abusé de repousser de 6 mois encore, tu vois, juste pour choisir des démarches. Surtout que. Enfin, je savais qu'au bout d'un moment, je me suis dit de toute façon, c'est débile parce que aller des rendez-vous et montrer un DVD.
Tu voulais faire plaisir aux fans, en gros.
Même pas. En fait, je voulais faire plaisir aux fans. Mais je savais qu'il y aurait beaucoup plus de retours si c'était sur Internet. Tu vois ? S'il y avait des articles qui en parlaient et tout, etc. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que dès qu'on a commencé à le mettre en ligne, il y a Libération qui m'a rappelé, les Arocuptibles, etc. Donc, et là, il y a beaucoup de contacts.
MCM, Canal Plus.
Voilà, tu vois. Et donc, je savais que, voilà, qu'en fait, le secret, c'est ça. C'est, ça sert à rien de, mettre, de l'envoyer à des gens qui vont pas le regarder, tu vois ? Faut le mettre sur Internet, tu vois. Et après, c'est les gens qui t'appellent. Il y a eu tellement d'attentes que, voilà, les vues étaient assez importantes et il y a eu pas mal de buzz. Donc voilà, c'est un truc... Le visiteur, ça va avoir fait comme ça à la base. C'est sur le long terme, hein. C'est pas un épisode qui a fait tout. C'est le fait qu'il y a eu une série.
Et là, c'est un peu... Continue.
Voilà, c'est un peu la même chose, sauf qu'il y a une image qui est différente et donc les articles sont un peu différents maintenant. L'année dernière, c'était basé sur des petits jeunes qui s'amusent, qui font des vues, c'est rigolo, ils regardaient. Et maintenant, c'est... Ah, ça peut être une vraie série en fait. Donc, et c'est ça que je voulais à la base.
Bien qu'il y a l'idée, c'est des jeunes, reste quand même assez présente dans l'interview de MCM. Bah, on parle quand même de 3 bouts de ficelle.
Oui, oui, mais c'est dans le bon sens cette fois-ci. C'est-à-dire, c'est dit dans le bon sens.
Débrouillard.
Voilà, dans le côté, regardez si ça fait et pas grand-chose, c'est bien. Alors qu'avant, c'était, oh, ils n'ont pas d'argent, ils font ce qu'ils peuvent, c'est rigolo, mais c'est complètement... Il n'y a pas d'influence là-dedans, il n'y a pas de conséquence. Alors que là, maintenant, il y a un peu plus de poids dans ce qu'on fait. Quoi.
D'accord. Bon, t'as parlé de la difficulté, enfin de la particularité du tournage, de l'écriture des 3 premiers, ouais. C'est-à-dire... Je suis pas très clair. Tu voulais faire un 26 minutes qui soit divisible en 3. Donc je pense qu'au niveau de l'écriture, il y a des contraintes assez difficiles.
Totalement. Ben, en fait, la plus grosse difficulté, ça a été de faire en sorte que ces 3 épisodes se suivent et en même temps aient des fins définies. C'est-à-dire que ce soit pas juste. C'est pas une fin de scène du style bon, je vais et c'est fini. Tu vois. C'est vraiment qu'on puisse regarder le premier en disant ah, c'était un épisode. Le deuxième, il se finit sur un peu un cliffhanger, sur une sorte de coupure un peu abrupte, mais c'est fait exprès. Et le troisième se termine, il y a une sorte de fin, quoi. Bien sûr, ça ouvre toujours sur quelque chose. C'est le but d'une série. Et donc c'était ça le plus dur, c'est de faire ces trois épisodes qui se suivent, qui soient à la fois un ensemble et en même temps différents. Et ça, c'est de la structure pure, quoi. Donc ce que j'ai fait, en fait, si je me rappelle bien, j'ai... En gros, je me suis dit, ok, une scène, c'est 2 minutes. Donc, j'ai 4 scènes de 2 minutes par épisode. Et ces scènes, il faut au maximum qu'elles se passent chaque fois dans un lieu différent. Donc par exemple pour l'épisode 1, 2 premières minutes c'est les bureaux où il y a Lopez. Et après c'est le salon avec le débriefing de la mission. Et après c'est dans le couloir avec Stella. Et après c'est dans le futur avec le visiteur et avec Tessa Folt. Donc c'est comme ça que j'ai divisé chaque épisode en fait, en 4 fois 2 minutes chaque. Après le truc c'est que je savais qu'en plus il fallait les tourner, il fallait que les lieux, il fallait que en écrivant je devais savoir dans quel lieu on allait tourner. Et il fallait par exemple, c'était très très dur à mettre en place parce que chaque fois que j'écris je fais la prod en même temps, tu vois. Et donc je savais qu'il fallait pas qu'il y ait trop de bureaux. Parce que je savais que si on allait tourner dans les bureaux, on allait pouvoir y tourner qu'une journée, tu vois. Et j'ai réfléchi, ok, on peut faire passer deux grosses scènes dans les bureaux, mais c'est tout, quoi. Et dans l'appart, c'est pareil. Je savais que l'appart, on pouvait... Enfin bref, il y a tout un truc où j'ai dû faire en sorte que... Et encore, parce qu'après, le plan de travail a changé, quoi, mais...
L'appart, c'est l'inverse, là, on peut en tourner pas mal.
Ouais, mais donc, mais au fin, mais ouais, je dis ça, mais en fait, dans les bureaux, ouais, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tourné dans les bureaux une après. En gros, on a fait bureau plus fond vert. C'était au même endroit qu'on a tourné les fonds verts. Donc, ça a permis de rassembler les lieux, quoi. Et donc, je savais que j'avais un nombre limité de pages par lieu, parce que je savais que si je mettais genre 6 pages dans le bureau, c'était pas possible. On pouvait pas tourner plus d'une journée dans le bureau, il fallait que tout rentre dans une journée.
D'accord, les contraintes de temps que tu t'étais imposées, qu'est-ce qu'elles étaient?
En gros, c'était un peu absurde. Au début, je voulais tout tourner en un week-end. Et finalement, on l'a tourné en 3 jours. Donc, c'est pas si différent que ça. Quoi.
Avec un jour découpé en 2 séries.
En fait, on avait le vendredi nuit, samedi, dimanche, et la semaine d'après, le samedi matin. Donc finalement, c'est comme si on avait 3 jours. Ouais. Donc l'avantage, c'est qu'on a pu cross-border. Donc cross-border, ça veut dire c'est quand t'as un scénario où t'as plusieurs scènes dans le même endroit, et tu tournes toutes les scènes dans le même endroit d'abord, tu tournes pas dans l'ordre du scénario. Donc en fait, on a tourné tous dans la cave, des épisodes 1, 2, 3, le même soir en fait. Et après, tout ce qui est dans les bureaux, les épisodes 1, 2, 3, le même jour, et après, tout ce qui est dans l'appart, le même jour, les épisodes 1, 2, 3.
Et la semaine d'après, c'était
D'après, c'était juste la ruelle, c'était juste cette scène. Donc ça a permis de faire ça, quoi, pour bien gagner du temps. Mais c'était short, hein. En gros, ouais, on a tourné... en fait, par jour, on tournait 50aine de plans, quoi. Voilà. Et bon, pour revenir à l'écriture, ça qui a beaucoup influencé le scénario, c'était de me dire, ok, quels sont les lieux où je peux tourner. Après, l'autre challenge, c'était quel personnage allait intervenir et à quelle proportion. Et la plus grosse difficulté, c'était par rapport à Mathieu et Justine, parce que je voulais vraiment, vraiment qu'ils réapparaissent dans la série. Je voulais pas forcément qu'ils reçoivent les nouveaux, enfin, qu'ils soient encore les méchants, parce que je trouvais qu'ils étaient devenus tellement attachants à la fin de la saison 1 qu'il fallait qu'ils deviennent des gentils, quoi. Et ça, ça sert à rien de remettre les mêmes méchants tout le temps, enfin, ça avait aucun sens, quoi. Sauf qu'à la base, je savais pas où les placer. Est-ce qu'ils apparaissaient dans l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, ou même est-ce qu'ils apparaissaient à l'épisode 4, parce que à un moment je me suis dit, mais en fait je peux pas les introduire, j'avais du mal à les introduire, que ce soit rapide. Et donc à un moment donné, pendant une première version, ils apparaissaient que dans l'épisode 3. En gros, épisode 1 c'était une mission qui se passait bien, épisode 2 c'était une mission qui se passe pas bien, et donc ils appellent Mathieu, Justine à la rescousse dans l'épisode 3. Puis ça marchait pas, il se passait pas grand chose. Donc j'ai trouvé un système pour que l'épisode 1, donc c'est la mission qui se passe bien, apparemment. Épisode 2, ça commence direct avec Théo et Louis, donc enfin Tim et Léo, qui se barrent, mais c'est hors champ, enfin voilà. Mmh. Et donc il faut les remplacer, Et c'est en très peu de dialogue. En fait, j'ai résumé ce qui aurait dû être un épisode, à savoir Tim et Léo qui se prennent la tête avec le visiteur et qui se barrent, et après la recherche de Mathieu, enfin de Mathéo et Judith. Finalement, ça a été réduit en 3 répliques, tu vois. Alors ça aurait pu être un épisode complet. Et donc, ce qui fait que c'est super expéditif. Donc, ce qui fait qu'on enchaîne sur le visiteur qui fait ouais, j'en connais peut-être deux qui pourraient faire l'affaire. Tac, on est dans le futur. Tac, il est chez eux. Tac, elle dit d'accord, je vais vous aider. Et on ne sait pas si c'est passé entre temps, on ne sait pas comment il les a connus. Comment il les a convaincus, enfin, mais en même temps, je savais que ça allait marcher parce que finalement, on s'en fout de savoir ça. Ce qu'on veut, c'est qu'ils arrivent. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est vraiment au moment où ils sont là, à le craft, et qu'il y a un malaise, et s'ils se souviennent oui ou non de la saison 1, et s'ils sont dangereux ou pas, et s'ils sont amicaux. Donc, c'est là où ça. Je me suis rendu compte qu'il fallait le mettre le plus tôt possible parce que c'est là où la série devient vraiment intéressante. Parce qu'au final, la série. Ce qui m'a permis l'écriture de 3 épisodes, ça m'a permis aussi de réfléchir sur ce qu'était la série. Parce que quand j'écris la saison 1, je ne savais pas ce que c'était la série. Quoi. Je le faisais, ça me semblait drôle, j'essayais de rebondir, j'essayais de faire un truc cohérent. Mais je ne me suis pas trop posé la question de ce qu'était la série, parce que entre ce que je faisais au début et à la fin, ça n'avait rien à voir. J'essayais d'explorer des voies. Dans la saison 2, j'ai essayé de me dire, ok, qu'est-ce que le visiteur du futur, quoi, c'est quoi. Et je me rappelle, quand j'ai commencé à expliquer que je voulais faire la saison 2 à un producteur, il m'a dit « Ah bah ça veut dire qu'à chaque épisode, ils vont voyager dans chaque époque. Ce sera un épisode, une époque différente, tu vois. » Et j'ai fait « Non. » Ah bon, mais pourquoi ?»
Ça, bah, c'est exactement Doctor Who. Enfin, exactement.
Ouais, c'est Doctor Who. Mais surtout, ça me semblait pas possible. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et même si on essaie de le faire, ça serait... Enfin, à chaque épisode, franchement, ça serait cheap, on reconnaîtrait les lieux et tout. Et sur le coup, j'ai un peu fait « Oh merde, en fait, il a raison, c'est chiant, en fait, un mec qui vient toujours dans le salon d'un autre mec, tu vois. » Et après, je me suis dit « Mais non, mais c'est pas ça, le visiteur du futur. Le visiteur du futur, c'est pas une histoire de... On voyage pas dans le temps, dans le visiteur du futur. C'est un mec qui vient du futur. Mais finalement, le visiteur du futur, en fait, c'est la science-fiction ramenée au quotidien. C'est-à-dire que c'est le but... Enfin, l'utilité du visiteur, en fait, c'est qu'il permet de ramener... tous ces éléments de science-fiction, à savoir donc les voyages dans le temps, les robots, les catastrophes, les zombies, enfin plein de trucs de science-fiction, et les ramène à notre quotidien dans le présent de Raph, en fait, tu vois. Donc finalement, c'est ça le cœur du concept. Donc, bien sûr, des fois, on va dans le futur, etc., mais au final, c'est pas ça le cœur du concept, c'est pas de voyager dans le temps à chaque époque, etc., c'est de ramener la science-fiction dans notre quotidien. Et dès que j'ai compris ça, je me suis dit, ah, mais c'est cool, en fait. En fait, je peux faire des scènes qui se passent dans des salons, dans des cuisines, où les gens discutent, du moment que j'oublie pas l'idée qu'il y a toujours une notion de science-fiction et de décalage qui est censée être présente, tu vois. Et donc là, ça m'a pas mal libéré vraiment de ça, quoi. Et l'autre truc qui m'a aussi, je me suis dit, le visiteur du futur, c'est aussi les personnages. C'est-à-dire que si les gens se sont attachés à la première saison, c'est parce qu'il y avait très peu de personnages, il y avait 6, tu vois. Et, mais attends, combien il y avait de personnages?
J'ai pas compté.
Il y avait Raph. Il y avait ses deux potes, qui au début sont des figurants et qui à la fin sont importants. Il y a le visiteur, il y a Castafolt, il y a les deux agents de la brigade temporelle. Et Stella, bon, c'est pas vraiment un personnage dans la saison 1. Donc il y en a vraiment 7, tu vois. Et donc finalement, pour une saison complète, il y a très très peu de personnages. Comparé ça à HeroCorp, ils sont je sais pas combien, tu vois. Et si les gens aimaient bien le visiteur futur, c'est parce qu'ils aimaient bien les personnages. Et donc, je me suis dit...
Tu peux les développer, étant donné qu'il y en a peu. Ce que tu peux pas faire s'il y a...
Exactement. Déjà, ça, c'était le truc aussi. Mais c'était surtout que ça m'a aussi convaincu de ramener vite Mathieu et Justine dans l'équation, parce que ils font partie des forces de la première saison, et il faut pas les oublier. Mais en même temps, l'avantage du scénario, c'est que comme ils ont pas eu la même vie, vu que la brigade temporelle n'existe plus dans la saison 2, ils peuvent revenir, ils ont à la fois le même caractère, mais pas la même personnalité. Je sais pas si c'est... ils ont la même essence, mais ils ont pas eu la même vie, donc ils ont des différences. Et ça, c'était génial pour moi, c'est de me dire, ok, d'un côté c'est eux, et d'un côté c'est pas eux, donc...
C'est très philosophique ce que tu dis.
Ah bon? Merci. Mais... c'était fun, tu vois, de pouvoir redéfinir les personnages.
L'impact de l'environnement sur le psyché d'un personnage. Et le personnage que tu n'as pas cité, c'est le double du visiteur.
C'est vrai, totalement, c'est le double du visiteur aussi. C'est vrai, c'est un personnage important. donc voilà, c'est ça qui a été les deux, comment dire, les deux axes sur lesquels je me suis concentré, parce que c'était très dur hein, d'écrire ces trois premiers épisodes, et donc je me suis rattaché, c'est on ramène la science-fiction chez Raph et on privilégie les personnages. Voilà les deux axes auxquels j'étais concentré.
Alors, tu nous t'as expliqué tout à l'heure que tu avais eu des idées différentes quant aux épisodes, c'est-à-dire d'abord un épisode où ça se passe bien, ensuite où ça se passe mal, ensuite Justine qui arrive. J'aimerais bien que tu nous donnes d'autres exemples de ce type, c'est-à-dire d'idées que tu as eues et que tu as modifiées.
Ouais.
Alors, je sais que concernant le personnage, le passé du personnage de Justine, t'es passé par plein d'étapes parce que t'en parlais souvent.
Tu m'as donné plein d'idées aussi. Alors, les deux trucs qui ont le plus changé dans le scénario, c'est la toute première scène. La scène avec Lopez et la prédiction du visiteur face à Lopez. Ça, c'est le truc que j'ai écrit mais 15 fois. Ça a été la scène la plus dure à écrire et même au jour d'aujourd'hui j'en suis pas satisfait. Je trouve que c'est fun mais c'est pas c'est très tiré par les cheveux et c'est ça qui me gêne avec ce que fait le visiteur. Et ça c'était à la base, tout ça c'était lié à un problème purement, on va dire, de lieu en fait. C'est à dire que en fait, le problème, c'était que le visiteur doit apparaître devant un mec pour lui dire « ne va pas à la boulangerie, ne va pas dans cet endroit-là ». Sauf qu'il lui dit un mensonge. Tu vois. Il lui dit... Et en fait, c'était très difficile parce que il fallait qu'on comprenne, en gros, quelle était la part de vérité et quelle était la part de mensonge. Et après, c'est pour ça que dans la deuxième scène, il réexplique ce qu'il a fait. Il voulait pas qu'il aille à la boulangerie pour rencontrer une fille. Mais il ment en lui disant « Si tu vas à la boulangerie, il y a deux mecs qui vont pas vraiment t'agresser, mais qui vont te vomir dans la bouche. » Et comme ça, c'était très dur à écrire parce qu'il fallait comprendre, en gros, dans l'espace où ils étaient, ce qu'ils devaient faire. Et donc, c'est pour ça qu'il le bloque à un couloir. Et après, Lopez est censé quand même y aller parce que j'ai fait... toutes les possibilités. Je me suis dit, un mec vient du futur. Comment Lopez réagit? Lopez est impressionné. Le mec disparaît. Est-ce qu'il va faire demi-tour pour autant? Non, parce que c'est un truc qu'on a vu dans la saison 1, c'est que chaque fois que le visiteur apparaît devant Raph et tu lui dis, ne fais pas ça, il le fait quand même. Et donc, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qu'il peut lui dire pour qu'il ne le fasse pas? Il dit, bah oui, il aura beau lui dire un truc aberrant, il va pas le faire, tu vois. Et donc, il le fait quand même. Et donc, il a besoin d'avoir une sorte de preuve après, visuelle, pour dire « Ah, en fait, non, c'est vrai. » tu vois. Et donc, c'est pour ça que Théo et Louis, enfin, Tim et Léo, sont dans les bureaux. Mais c'est pas logique qu'ils soient dans les bureaux. Enfin, ça où les gens ne se rendent pas compte, c'est que si ça avait été vraiment logique, on aurait dû suivre Lopez dans la rue et on a dû retrouver Lopez dans l'allée face à ces mecs-là. Et là, il aurait fait « Oh, merde !» Il aurait fait demi-tour. Et ça aurait été beaucoup plus logique. Sauf que je savais qu'on pouvait pas tourner avec Soren Prévost dans deux endroits différents, etc. En une journée, c'était une galère. Donc je me suis dit, il faut ramener eux dans le truc. Donc finalement, ça a aucun sens qu'ils soient dans le bureau et tout. Et au début...
C'est un sens, mais
c'est pas évident. Et au début, c'était très lourd parce que je voulais l'expliquer ce sens-là. Donc en fait, j'avais fait toute une scène où Tim et Léo étaient infiltrés dans les bureaux et t'avais l'un qui était déguisé en coursier, donc on comprenait pourquoi elle était là, mais en même temps il avait un colis, mais la standardiste lui disait « mais c'est pas le bon colis, vous êtes trompé ». Et après Lopez devait dire « mais ce mec-là, j'ai l'impression de savoir qui c'est, on a parlé ». Ça c'était pas du tout évident en fait, et il devait croiser l'autre dans les escaliers... Et je me suis dit, mais c'est pas évident, on comprend pas le lien, on comprend pas ce que pense Lopez, on comprend pas ce que pense le visiteur, on comprend pas ce qu'ils font là. Et il faut attendre la deuxième scène pour se l'expliquer. Et ça me plaisait pas en fait. Tu vois. Le fait de dire, vous avez compris, c'est pas grave, on va vous expliquer après. Il fallait que la première scène soit assez évidente quand même pour qu'elle soit marquante. Et donc j'ai essayé de simplifier au maximum, donc j'ai simplifié la prédiction du visiteur. Sur la base, dans la prédiction du visiteur, c'était pas deux mecs ensemble, c'était un mec avec un. Lopez devait se faire racleter par un mec avec une pompe à vélo, un autre devait essayer de le sauver, mais en le réanimant, il lui vomit dans la bouche, tu vois. C'était un peu plus alambiqué. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop compliqué, il faut que ces deux mecs arrivent en même temps, etc. Et donc, tout ça pour dire que cette scène qui paraît débile a été le plus dur à écrire. Voilà. Au final, ça passe. Même si on a eu des problèmes sur le tournage par rapport à un plan, mais ça passe.
On en parlera tout à l'heure, je pense.
Et l'autre truc qui a été très dur à écrire, c'est le passé de Justine, donc de Judith. Parce que je savais qu'on ne pouvait pas forcément le montrer et qu'il fallait qu'en une phrase, elle explique son caractère et surtout son il faut qu'elle explique son caractère et l'univers dans lequel elle vient. Parce que le futur de 2099, on le voit très peu finalement. Et on doit comprendre en quoi ce futur est. Comment dire, est un peu bizarre et un peu sombre par rapport à notre présent. Et donc c'est passé par plein d'étapes. Et à un moment, j'avais bloqué sur le fait que je voulais qu'elle soit productrice de jeux de télévision, de télé-réalité. Sauf que dans le futur, les jeux de télé-réalité, c'est des trucs complètement violents. Et elle devait être productrice d'un jeu qui s'appelle Le chien ou le voisin. Et c'est un truc où c'est une sorte de. Comme un peu la guerre des voisins. C'est. T'as un problème de voisinage. Et en gros, on te propose, voilà, voici votre voisin qui vous fait chier parce que, je sais pas, sa boîte aux lettres, machin, ou parce que sa clôture, enfin, tous les trucs qu'on voyait chez Julien Courbet, là. Les gars des voisins.
Ouais, non, je vois, ouais.
Et en gros, il dit, voilà, vous avez la possibilité de tuer votre voisin, ou de soit vous tuez votre voisin, soit vous tuez un chien. Un chiot qui a rien demandé, tu vois. Et en gros, les mecs, ils avaient la possibilité de tuer leur voisin, mais s'ils n'avaient pas le courage, bah, ils devaient quand même tuer un chien. Et en fait, l'idée, c'était que jamais personne n'avait tué le chien, tu vois. C'est un truc où les gens disaient, ah non, j'ai pas d'hésitant, ils ont tué leur voisin. Et ils n'allaient pas en prison pour ça. Et un jour, elle a été virée parce qu'un candidat a choisi de tuer le chien, et là, la SPA lui est tombée dessus, et elle a été virée, tu vois. Et je trouvais ça drôle, tu vois. Mais bon, c'était. C'était un peu trop compliqué à expliquer, en fait, tu vois. Mmh. Elle devait expliquer une histoire, on devait pas trop voir d'image.
L'histoire dans l'histoire, ça
voilà,
fait vraiment
ouais,
l'intrigue.
Ouais, exactement, et ça posait c'était trop compliqué, tu vois. Et après, je me suis dit, finalement, l'autre idée, c'était concert technique en suicide, et parce que ça joue sur le fait qu'on pense qu'elle aide les gens, mais en fait, non, elle les conseille. Et ça montre qu'elle est complètement détachée de la mort, en fait, tu vois. C'est que vraiment, pour elle, se suicider, bah écoute, voilà, je peux te conseiller. Enfin, elle a aucun état d'âme. Ça, je voulais montrer, parce qu'on la voit pas vraiment tuer des gens, mais qu'elle peut décider de la mort des gens sans état d'âme. Tu vois. C'était ça que je voulais montrer. Mmh. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi, enfin, finalement cette version-là me paraissait plus simple, plus courte, et après on passe à autre chose.
Mmh. Oui, qui fonctionne bien. Je voulais savoir à quel point tu attends d'avoir ton histoire en tête pour attaquer l'écriture.
Bah justement, alors ça c'est un truc, moi j'écris pas une seule ligne avant d'avoir la structure générale de A à Z. D'avoir chaque scène dans ma tête qui s'enchaîne. Je peux pas écrire un dialogue, je peux pas écrire une scène sans savoir quelle est la fin, tu vois.
D'accord.
Donc j'ai besoin de savoir au moins les trois étapes, le début, le milieu, la fin. Après, ça me passe. Ça, des fois, je change. En écrivant, je me rends compte que ça marche pas. Mais je peux pas me mettre à écrire tant que j'ai pas ça. Donc des fois, je passe beaucoup plus de temps finalement à ne pas écrire, à réfléchir, qu'à écrire. Et des fois, c'est assez évident. Donc dans ma tête, je le fais dans ma tête et j'ai juste à écrire une première fois. Des fois, j'ai besoin d'écrire une sorte de séquencier, où j'écris chaque scène et j'écris ce qu'on apprend dans chaque scène et quel est le retournement dans chaque scène et qui enchaîne sur l'autre scène, etc. Là, c'est vraiment quand j'ai besoin d'être sûr. Donc voilà, et donc ce qui fait que pour les trois épisodes, le problème c'est que j'avais déjà tout était logique et pour moi, le seul truc qui allait pas, c'était la première scène. Tu vois. Et je me suis dit, si la première scène ne marche pas, tout le reste ne marche pas. Et ça me faisait vraiment flipper et c'était même peut-être deux semaines avant. Qu'on commence la préparation.
T'as eu des moments de découragement, non ?
Ouais.
Tu peux nous en parler, est-ce que t'as hésité à abandonner ?
Ouais, complètement. À un moment, j'ai dit, c'est de la merde. J'avais pas réussi à créer ma première scène, alors que j'avais toutes les autres scènes. Et je me suis dit, si j'arrive pas à passer cette étape-là, le reste ne s'enchaîne pas. Et je sais que le reste vaut le coup. Mais si la première scène, elle est bateau, elle est bancale, je veux dire, ça n'a aucun sens. Et les gens, en plus, le pire, c'est que sur Internet, je sais que les gens, si au bout de deux minutes, ça les fait pas rire. Ils voient pas l'intérêt, ils vont pas regarder la suite. Donc ça m'a vraiment découragé, je voulais arrêter, je me suis dit ça sert à rien.
Tant et qu'est-ce qui t'a motivé à continuer ?
Anaïs. C'est elle qui m'a dit bah non, t'es con, tu as trouvé une solution.
Voilà. Mets-toi devant ton ordinateur et travaille.
Non,
tu
mais.
Tu ne sors pas du bureau tant que tu n'as pas écrit cette première scène.
Puis en fait, c'était le fait de me dire. En fait, j'arrivais pas à faire marcher le truc, et au moment, je me suis dit bon, de toute façon, la première scène, je peux pas faire un miracle. Le seul truc que je peux faire, c'est essayer de passer très vite la première scène, tu vois, de vraiment faire ok, vous avez rien vu, et après pour filer tout droit sur la deuxième scène, troisième scène et troisième épisode, tu vois. C'était ça le truc, je me suis dit ok, je peux pas la sauver, je peux juste faire la faire la moins pire possible. J'ai accepté ça, tu vois. J'ai accepté l'idée que la première scène allait être la pire scène des trois épisodes.
Il y a juste une question que je me faisais là pendant que tu parlais. Pourquoi est-ce que dans le discours du visiteur, tu as pas fait dire je mettrai pas mon pourquoi est-ce que tu lui as pas fait dire que Tim et Léo allaient venir dans son bureau? Comme ça aurait été logique ensuite lui il les voit dans le cadre du bureau.
Alors parce que le tout c'est que la blague c'était que cette scène-là devait être réutilisée dans le deuxième épisode aussi. C'est-à-dire que on devait avoir le même discours, le même genre de scène, le même truc, et c'est un peu qu'on comprenne que c'est une sorte de combine qui réutilise plusieurs fois, tu vois.
D'accord, exact.
Avec des petites variantes, mais voilà. Donc je voulais que la combine soit simple et.
C'est toujours un dilemme d'écrire une scène seule, mais là, c'est fabriqué avec plein d'autres choses.
Puis l'autre truc aussi, c'était que s'il dit il y a des gens qui vont venir dans le bureau et qui vont le faire chier, il est dans un endroit, il est dans le bureau, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, il n'est pas en danger dans le bureau. Parce qu'il y a des gens autour qui travaillent, il peut aller voir ses collègues, et en soi, ça ne va pas l'empêcher d'aller dehors. Les mecs vont être là, ça va être relou pendant un moment, mais au final, il va aller dehors. Là, l'idée, c'est que s'il franchit la porte et qu'il va là-bas, il sait que sur le chemin, il va la rencontrer. Donc, il ne peut pas y aller. C'était cette notion de trajet, en fait, qu'il fallait que je mette en place. Et c'était pas facile, parce que d'un côté, ils sont censés l'attendre dehors, et en même temps, il les voit dans le bureau. Et le fait de les voir dans le bureau, c'est censé lui dire « Ah merde, ils vont m'attendre dehors. » Ouais. Voilà le truc. C'est logique, mais c'est pas évident. Et c'est ça qui m'énervait dans le... Mais en même temps, le problème, c'est qu'il pouvait pas dire la vérité. Parce que tout le truc est basé sur le fait que les gens, quand on leur dit la vérité, ils s'en foutent. Tu vois. Et donc, c'était vraiment ça le plus dur.
Bon, une fois que tu as écrit ta première version du scénario, je voulais savoir à quel point il est modifié ou après les lectures avec les acteurs, au moment du tournage, à chaque fois c'est des détails.
Mais... Franchement, c'est très peu. Enfin, les acteurs arrivent vraiment à trouver des gags où j'en trouve pas. Et, c'est des détails, des trucs qui
n'influent pas sur l'intrigue
non,
générale.
Jamais, de toute manière. Non,
jamais. Trop risqué.
Bah, ouais, c'est pas responsable, quoi. Je veux dire, enfin. Et puis ils sont pas cons, ils vont pas dire et finalement si mon personnage finalement s'il tuait lui ou finalement son personnage finalement s'il disait pas, bah non c'est bon, enfin ça m'est déjà arrivé de travailler avec des gens comme ça et heureusement je travaille avec des gens qui sont pas comme ça, qui vont vraiment apporter telle chose qui va aller dans le sens de l'histoire. Et il y a eu plein de trucs qui ont été à la limite, qu'est-ce qui a changé, bah oui il y a une blague qui a été échangée parce que Justine ne la comprenait pas. C'est le fail.
En fait, mais je me rappelle qu'on avait fait la lecture tous ensemble.
Oui, mais en fait, on l'a trouvé ensemble.
Il n'y a pas que Justine
bah oui,
qui n'a
voilà.
pas compris ce fail. C'était pas évident.
Mais en même temps, non, mais moi, ce qui est le plus important, c'était, je dis pas que Justine n'a pas compris, elle est idiote. Je disais que si Justine ne comprenait pas la blague, c'est pas mon signe. C'est-à-dire que ça veut dire que si elle ne le comprend pas, elle peut pas le jouer pour le faire comprendre. Donc il fallait qu'elle soit à l'aise avec ça. Et donc, à la fin de l'épisode 2. Quand Raph il dit sauver le monde c'est pas un boulot, c'est une...
Avant d'expliquer ça, est-ce que tu peux expliquer, oui, tu es en train d'expliquer
ouais.
le fail
ouais, ouais.
déjà
la, donc, première, voilà, puis... la première fois Raph il dit sauver le monde c'est pas un boulot, c'est un devoir. Et là elle le regarde, elle dit fail. Et après à la fin quand Matteo il tue la fille, elle va se retourner lui dire fail. Et c'était drôle à l'écrit, tu vois, et quand tu connais la référence, fail, ça veut dire...
De jeu vidéo, quoi.
Ouais, c'est toujours Internet. C'est fail. Et fail, c'est quand les mecs, ils se prennent une grosse honte, et tu mets une photo d'eux, tu mets fail, tu vois. Comme le fail blog, il y a tous les fails. Tu vois, même toi, c'est pas évident. Mais ça prouve
c'est
que...
C'est une culture
voilà.
très...
Et je me suis dit,
précise.
Si c'est pas évident, c'est pas drôle. Pour que ça soit drôle, il faut que ça soit évident. Et on a essayé plein de trucs, et à un moment, je sais plus comment c'est sorti, et je lui ai dit, écoute, applaudis, mais tout doucement, tu vois. Et, je sais pas si c'est peut-être elle qui l'a proposé, mais... Et donc, elle a fait... comme ça, et c'était très drôle, tu vois.
Et c'est quoi les autres étapes?
Il y avait fail, il y avait chez, Pareil, alors chez, c'est encore plus obscur.
Ouais, bah, je sais pas. C'est parce que c'était assez répandu quand on était jeune, en tout cas.
Il y avait un autre truc aussi, c'était Loser, tu vois, ça, on avait tenté ça aussi. Mais finalement, ce qui était le plus drôle, c'était le côté complètement froid, elle regarde, elle cligne pas des yeux, elle fait ça comme ça, tu vois. Et ça, c'est son personnage. Si elle fait Loser, c'est pas son personnage, tu vois. Le côté complètement détaché, tu vois, qui se fout de ta gueule mais qui montre pas, ça, c'est plus le personnage de Judith. Donc, je suis content qu'on ait trouvé ça. Sinon, donc, j'ai quelques petits détails. Pratiquement toutes les répliques de Castafolt ont été enrichies par Slim. Hein,
c'est une pilotosité exceptionnelle.
Voilà, alors ça, c'était pas le tout le scénario. Moi aussi, je suis fier de ma moustache. Ouais, c'était un truc très simple.
Je suis le premier
surpris par la qualité de ma moustache.
Ma pilosité.
Et lui, je sais plus ce qui était écrit, en fait. J'arrive à un point où je sais même plus ce qui était écrit, parce que c'est tellement plus drôle et naturel que j'ai l'impression de l'avoir écrit. Alors qu'en fait, non, c'est les acteurs qui ont Et c'est ça l'avantage du Visiteur du Futur, c'est que j'essaye, en fait, moi je fais au maximum pour que ce soit drôle dans l'ensemble, dans la structure, dans la narration, dans les intrigues, les retournements, etc. Mais je sais qu'au niveau des répliques, s'il y a une réplique où je bloque, où je dis putain cette réplique elle est censée être drôle, et ben c'est pas grave, je l'écris telle qu'elle doit être racontée, on va dire, et je sais que Florent, Raph, Slim, Mathieu, Justine, ils vont toujours trouver un truc pour la rendre drôle, sans que ça soit forcé, quoi. Parce que c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué dans la télévision, surtout en France, c'est il faut des blagues, il faut des blagues, il faut des blagues, tu vois. Et quand ça sort de nulle part, tu le sens trop et c'est gênant, tu vois. C'est genre on fait une blague, après on fait un silence pour qu'on attend les rires, après on continue à parler, tu vois. Et ça, c'est un truc, dans Le Visiteur, je veux pas que ça soit comme ça. Je veux que les blagues paraissent tellement sortir naturellement que des fois on peut passer à côté.
Tout à fait, tout à fait. Tu parlais un petit peu de la structure des trois épisodes tout à l'heure. Est-ce que tu peux... Alors, je ne sais pas du tout si c'est possible d'écrire la structure de ces trois premiers épisodes
ou
ce 26 minutes
avec clairement.
Des actes, combien d'actes
c'est vraiment trois actes. Hein, c'est, t'as,
un épisode, un acte.
Ouais, alors, ça ne respecte pas à 100% les règles scénaristiques de base, mais en gros, c'est ça, c'est exposition, confrontation et résolution. Donc le premier épisode, c'est et dans l'exposition, t'as aussi l'exposition, confrontation, enfin plus ou tu vois. C'est que dans le premier épisode, en gros, on raconte ce qu'ils font en général. On explique voilà le quotidien du visiteur de Raph depuis quelques temps. Dans le deuxième épisode, c'est leur quotidien est chamboulé par un événement qu'ils n'avaient pas prévu et donc ils essaient de trouver une solution, sauf que cette solution échoue. Dans le troisième, c'est ils sont dans la merde, et dès le début, ils sont dans la merde, et en plus, ils apprennent que leur première mission a échoué, donc ils doivent réparer un truc, et ils doivent confronter tous leurs problèmes à ce moment-là, et il faut le résoudre. Et donc les problématiques sont, c'est, est-ce que le plan du visiteur fonctionne? Est-ce que Raph a raison de vouloir dire la vérité aux gens? Est-ce que Mathieu et Justine sont vraiment des gens bons, ou est-ce qu'ils vont se retourner contre le visiteur et Raph? Et toutes ces questions sont résolues à la fin, et même tu as la question de Raph va-t-il arriver à approcher Stella, tu vois. Donc toutes les questions sont résolues dans l'épisode 3, et c'est pour ça que les gens préfèrent l'épisode 3, c'est parce qu'on résout tout, tu vois. Et c'est pour ça que les gens aiment pas l'épisode 2, c'est parce que dans l'épisode 2, on fait que on coupe tout au milieu d'action, et donc il n'y a rien qui est résolu à la fin.
Fin sans les rassasier.
Voilà, exactement. Il n'y a rien qui est résolu à la fin de l'épisode 2. Et donc les gens disent « Oh, mais c'est nul, alors !» Mais c'est parce que c'est comme si on t'arrêtait au milieu d'un film en disant « Bah voilà, reviens plus tard. » Voilà, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que les gens reviennent.
C'est ça qui provoque l'addiction.
Bah oui.
Aussi.
Les gens vont pas dire « Oh, mais c'est nul !» et après pas regarder le troisième. C'est ça, c'est le vrai échec. Donc voilà un peu en termes d'épisodes les trois trucs, sauf que dans chaque épisode il y a un truc qui est nouveau en termes de structure qu'il n'y avait pas dans la saison 1, c'est qu'il y a un pré-générique et après il y a l'épisode, et ça influence pas mal la structure. Si tu veux qu'il y a une scène de 2 minutes, après il y a le générique et après il y a 4 minutes environ, ou 5 ou 6, ça dépend. Ces 2 minutes là servent, alors c'est souvent, ces 2 minutes-là, c'est souvent, en fait, ce qui donne... ça commence par une scène un peu quotidienne, et après, t'as l'intrigue qui se met en place. Et, à la fin, et en gros, ça s'est donné un peu le thème de l'épisode. Dans l'épisode 1, c'est « Ok, on va vous montrer à quoi ressemble une mission du visiteur du futur. » Dans l'épisode 2, c'est « Ok, on va montrer comment Mathieu et Justine vont arriver dans l'équipe. » Et que ça va impliquer. Et dans l'épisode 3, c'est « Ok, on va vous montrer que comment maintenant, ils sont obligés, avec Mathieu et Justine, de réparer un truc qui s'est mal passé avant et on va voir si vraiment ils peuvent rattraper leur erreur d'avant. » Donc ces deux premières minutes sont très essentielles parce que t'es censé à la fin de ces deux minutes te dire putain j'ai envie de voir la suite quoi. J'ai envie de voir ça a donné le sujet de l'intrigue quoi. Mm. Donc voilà le principal changement et après t'as ils discutent de ce qu'ils vont faire et après ça t'as des twists et tout et à la fin t'as une sorte de conclusion des...
D'accord, finalement voilà. T'as pré-générique et puis ensuite t'as un petit peu exposition, développement, conclusion.
Bah, le pré-générique c'est censé être un peu exposition,
l'exposition,
mais aussi. L'exposition continue après le générique parce qu'il faut réexpliquer certains trucs et après t'as la, voilà, et après, t'as, la résolution à ce moment-là quoi. Et ça c'est très dur parce que ce qu'on fait c'est réellement ce que font des séries de 52 minutes hein, normalement hein. C'est...
Ce pré-générique
est... Oui, oui, oui.
C'est-à-dire que tu raisonnes comme d'autres raisonnent pour un 52 minutes, mais là pour un 8 minutes.
Ouais, voilà, ouais. Mais franchement, si je l'ai fait, c'est parce que j'étais vachement influencé aussi par la Flanders Company et Nerds. Noob, ils font pas ça. Noob, eux, c'est générique dès le début, je crois. Mais Flanders Company et Nerds, eux, ils. Si je me rappelle bien, c'est ça. Ils ont bien. Ça commence vraiment par un pré-gène qui annonce le thème. Ou des fois, c'est des fois un truc, un gag qui a rien à voir. Mais souvent, ça annonce quand même le thème générique. Et après, l'épisode, entre guillemets, commence vraiment. Quoi.
D'accord, d'accord.
Donc je me suis dit, c'est possible, tu vois, parce que je me suis influencé ça. Puis, en fait, ouais, on peut le faire. Quoi. Mm. Et je voyais comment ça marchait bien dans la Flanders et tout. Ça lançait bien le truc. Ça faisait vraiment série quoi, je me dis putain ouais, en fait t'as vraiment l'impression de voir une série parce que ça commence, t'as une scène, etc. Puis hop, ça se coupe, t'as le générique, tu dis ok, je veux savoir ce qui se passe. Quoi.
Bon, prochaine question, tu y as déjà répondu en partie, c'est ce dont tu es fier et ce dont tu n'es pas fier. Alors ce dont tu n'es pas fier, entre guillemets.
C'est la première scène.
La première scène.
La première scène, j'en suis vraiment pas fier. La deuxième scène, j'en suis moyennement fier, que ce soit en termes de tournage... En termes de, ça fait vraiment très scène de, voilà, on explique, on parle, voilà, d'être compris, tu vois. Et c'est vraiment à partir de la scène avec Raph et Stella que là, on commence à avoir des petites confrontations intéressantes, voilà. Après, je suis...
Plutôt fier de la suite.
Ouais, je suis plutôt fier de la suite. Je suis plutôt fier de la fin.
Quelle est ta scène préférée sur ces trois épisodes?
Ma scène préférée?
Si tu peux répondre à la question, c'est difficile.
Non, enfin, ce que je suis plus fier, c'est qu'on arrivait à faire plein de trucs différents et en même temps qui se répondent. À savoir, la comédie romantique, chose qu'il n'y avait pas dans la première saison, vraiment. Un petit peu, mais c'était plutôt du foutage de gueule, quoi. De la science-fiction avec des effets spéciaux. Et ça, je pense qu'on a vraiment réussi à le faire.
Merci, Leslie.
Merci, Leslie. Du sitcom où des mecs se prennent la tête et dans des salons, tu vois. De l'action aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De l'absurde. Voilà. Plein de trucs comme ça. Et aussi un autre truc dont je suis assez fier, parce que pareil, c'était un nouveau truc qu'on n'avait pas vraiment fait dans la saison 1, c'est d'amorcer une sorte de contraste, de pas forcément mettre que des musiques drôles, tu vois, des trucs, qu'on sent que ce qu'ils font, ça a une importance, tu vois.
Qu'ils ont et pas donc, forcément une vie folichonne.
Exactement, voilà. Et moi, c'est le premier truc que je voulais faire dans la saison 2, c'était de crédibiliser les personnages. Voilà. J'aurais peut-être dû commencer par ça, parce que c'est vrai que c'était le premier but aussi, c'était que jouer, qu'on puisse sentir que les personnages... Dans la saison 1, c'est basé sur Raph va être tranquille et il faut le laisser tranquille. C'est drôle. Mais au bout d'un moment, si la saison 2 c'était ah ben laissez-moi tranquille, l'histoire du futur, et le visiteur fait mais non, je suis toujours là. Tu te dis mais ils ont ça à foutre, tu vois. Ils ont... Franchement, c'est pas drôle quoi au bout d'un moment. Tu te dis mais c'est trop superficiel. Et là, je voulais que chacun ait une application, tu vois. que la mission du visiteur, en fait, elle est vraie, quoi. Ils veulent vraiment sauver le monde parce que le monde, il est pourri, quoi, et qu'ils vivent dans un endroit, mais c'est horrible. Je voulais que il y a un côté un peu touchant, tu vois, dans ces personnages. Et c'était risqué parce que forcément, tu joues un peu au côté, je dirais pas mélodramatique, mais tu joues sur une corde différente. Et en même temps, c'est ça qui permet à la série de durer, tu vois. Si les personnages n'ont aucun poids, si ce qu'ils font, ils sont pas dangereux dans l'histoire, ça n'a rien de regarder autant d'épisodes.
Donc ça donne de l'épaisseur.
Voilà, et tu regardes parce que tu t'es intéressé. Et moi aussi, ça m'intéresse en tant que scénariste. Sinon, je suis pas intéressé par ce qu'ils font. Je me dis, on s'en fout de savoir si Ra va être tranquille ou pas, tu vois. D'ailleurs, dans la saison 1, à l'épisode 12 où on dévoile que finalement Raph n'est pas juste un mec qui veut être tranquille, mais potentiellement un mec qui a créé quelque chose d'important. Et c'est là où la série devient intéressante. Tu vois. Donc là, je voulais qu'il y ait un peu ce même genre d'enjeu, tu vois, et ce même genre de contraste. Et j'ai été assez influencé par Red Dwarf, c'est sûr. Parce que Red Dwarf joue là-dessus des fois, t'as des scènes vraiment assez glauques. Au milieu de scènes très drôles, mais ça permet aux scènes drôles d'avoir une résonance, tu vois. Et Nerds aussi, ils ont fait ça souvent, surtout dans les dernières saisons, ou des moments où c'est vraiment dramatique, tu vois, ce qui se passe, parce que tu te rends compte que les personnages ont des vies de merde, tu vois. Et dans Le Visiteur, je voulais montrer ça aussi, tu vas dire, mais tu sais, Le Visiteur, il est drôle, il fait machin, mais il a une vie de merde. Et ça, les gens, forcément, ça les déstabilise, parce que ils s'attendaient pas à ça, quoi. Après, il ne faut pas non plus plomber l'ambiance, tu vois.
Dans la saison 1, c'était quand même déjà un peu montré. Ouais. Il n'y avait pas une vie cool.
Oui, mais...
Au moins une vie inconfortable.
Une vie inconfortable, tu vois. Mais là, on essaie de le mettre plus en avant. Et dans le rythme aussi, de jouer sur le fait que... En fait, la grosse différence dans l'écriture, c'est surtout lié au visiteur. C'est-à-dire que le visiteur, dans la saison 1, en fait, on est à 90%, on est du point de vue de Raph. Et donc... On est du point de vue de Raph, le visiteur arrive, il fait le guignol, il fait des grands gestes, il crie, Raph est blasé, et après le visiteur se barre. Dans la saison 2, le visiteur, on le suit, on voit ce qu'il fait dans le background, et en plus, on comprend que quand il fait le guignol et tout, c'est dans un but très précis, et qu'au final, il n'est pas comme ça tout le temps. Et qu'en fait, il réfléchit à des trucs à côté, etc. Et donc, on découvre le personnage du visiteur dans un autre contexte. Et pour moi, il ne change pas, c'est juste qu'on le redécouvre dans les endroits qu'on ne l'avait pas vu. Et donc forcément ça change un peu, tu vois, et ça c'est un truc où voilà, Florent était un peu inquiet au début, mais ça l'a vachement intéressé de jouer là-dessus, tu vois. Et je lui dis, moi j'ai envie de te montrer que le visiteur, parce qu'en fait pour moi, ce qui définit le visiteur, c'est pas tant qu'il soit, qu'il parle fort, des grands gestes, c'est pas ça le visiteur, c'est l'ambiguïté, c'est on sait pas s'il est bon, s'il est mauvais, s'il est fou, s'il est sain d'esprit, s'il sait ce qu'il fait ou s'il fait semblant de savoir ce qu'il fait et tout. C'est ça, le visiteur. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas son nom aussi. C'est qu'il y a une sorte de gros mystère. Et là, dans la saison 2, on continue là-dessus. C'est qu'il y a une vraie ambiguïté. Et pourtant, c'est l'allié de Raph, tu vois. Donc, il y a une sorte de confiance entre eux. Mais il fallait montrer que Raph ne peut pas avoir confiance en lui à 100% parce qu'il cache trop de trucs, il manipule trop les choses, quoi. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'était ça le plus important. C'était de garder cette ambiguïté sur le visiteur, enfin, de la poursuivre. Parce qu'à la fin de la saison 1, on avait l'air d'avoir tout découvert sur le visiteur. Et en fait, là, je relance le truc, je dis non, en fait, on ne connaît pas grand-chose sur le visiteur et on va apprendre des choses.
D'accord. Je regarde combien de temps reste. 59, bon, je ne sais pas si on aura assez de bandes. Je voulais conclure sur les changements entre les trois premiers épisodes de la saison 2, donc, et la suite des épisodes.
Alors, ce qui va changer, c'est pas tant le ton, etc., c'est surtout le fait qu'on a tourné les trois premiers épisodes en cross-bordant, c'est-à-dire qu'on a tourné en même temps, ça nous a permis de faire une scène de 2 minutes dans un lieu, une scène de 2 minutes dans un autre lieu, une scène de 2 minutes dans un autre lieu.
Donc, ça, il y a plusieurs lieux par épisode.
Voilà. Dans la suite, on pourra pas se le permettre. On pourra que faire des lieux voisins, que des lieux dont on a accès, parce qu'on va tourner un épisode en une journée. Et donc, il faudra qu'en une journée, on puisse faire tous les lieux. Et on ne peut pas faire quelques lieux différents.
Si d'accord. Sont dans l'appart, dans la cave, parce que c'est dans le même immeuble.
Par exemple. Et encore, même ça, c'est compliqué, parce qu'il faut installer le décor et tout. Ou dans plusieurs salles de l'appart, ou en extérieur, mais dans les lieux voisins. Voilà ce qui va changer. Et aussi, le truc qui va changer, c'est qu'on n'aura pas forcément... Forcément, vu qu'on n'est pas... Si on n'est que dans la cave, par exemple, on n'aura pas les autres personnages. Donc on sera centré, les épisodes, on sera centré que sur un couple de personnages ou sur un autre groupe de personnages. Il n'y aura pas tous les personnages dans chaque épisode.
D'accord. En termes de moyens,
Ça changera. L'équipe sera beaucoup plus réduite que les trois premiers. parce qu'on tourne pratiquement toutes les 2 semaines, même là, toutes les semaines. On n'est plus au 5D, on est au 7D, qui est une caméra qui est légèrement inférieure, mais qui permet de faire d'autres trucs mieux, notamment des ralentis. Le matériel, j'ai plus à le louer, puisqu'on a acheté du matériel lumière. Voilà quoi, l'équipe est réduite, mais au final, j'espère que le résultat sera le même, quoi.
D'accord.
Parce que voilà, quoi, on peut pas tourner à 15 toutes les 2 semaines, c'est pas possible.
C'est sûr. Bon, bah écoute, 1h01, à mon avis, on doit être à 1h02 de bande là.
Ouais.
C'est ça. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Hein. Je pense qu'on a tout dit. Est-ce que tu penses qu'il y a un truc, quelque chose qu'on n'a pas abordé?
Bah non, je pense que t'as bien défini tout.